Bienvenue au podcast Ubica, le podcast où est-ce qu'on chill avec des sportifs, des athlètes, des gens du milieu du sport, des geeks de sport, puis c'est aussi pour les geeks de sport, j'en suis un, c'est pour mes pères. Dans le fond, mes pères, c'est vous êtes mes pères. P-A-I-R-E-S, père. That's it. Cette semaine, on reçoit, je regardais parce que Doom, il est assis là en silence, là. P-A-I-R-S? P-A-I-R-S? Écrivez dans les commentaires si c'est P-A-I-R-E-S ou P-A-I-R-S. Cette semaine, on reçoit Antoine Jolicoeur-Desroches, qui est un triathlète, mais aussi un chercheur en sport, en nutrition du sport. C'est un passionné d'entraînement, un passionné de performance. On a parlé évidemment de sport, et vous guesserez, de triathlon, Antoine qui est un triathlète. On a parlé de natation en eau libre. On a parlé du Antoine qui a gagné le Canada Man. Le Canada Man, c'est un Ironman, mais avec des conditions extrêmes. Fait que du gros dénivelé en vélo, puis le marathon, juste pour vous le dire, pour ceux qui caressent peut-être l'idée de courir un marathon, mais ça, c'est un marathon à fin d'un Ironman. Puis le dernier 21.1 du marathon, faut que tu montes en haut du mont Mégantic. Fait que c'est insane. Puis Antoine a gagné avec un record de parcours. Puis là, je veux sortir le podcast cette semaine parce que Antoine est au Ironman du Mont-Tremblant. Puis on en parle un petit peu, puis je voulais pas que le podcast soit outdated parce qu'Antoine disait que c'était son objectif. Fait que si jamais il a complètement explosé, je voulais pas que quelqu'un écoute le podcast rempli d'espoir et de bonheur, puis après ça, tu te rends compte de son résultat. Puis je voulais qu'on l'écoute avant, puis après ça, on voit la conséquence de son entraînement. C'est ça. Fait, je vous laisse avec la conversation. Le podcast, évidemment, présenté par Ubica. Ubica, c'est une compagnie, en fait, ma compagnie de suppléments pour les sports d'endurance. Le premier produit, c'est le Ubica Endurance. C'est un tout-en-un pour vos sports d'endurance. 25 grammes de glucides à vidange gastrique rapide, fait que ça tombe pas sous le cœur. 300 mg de sodium pour la rétention d'eau. Restez bien hydraté. Vous allez voir dans le podcast, on parle de l'importance de l'hydratation. On a des électrolytes pour remplacer les électrolytes qu'on perd à la sueur. Taurine pour production d'énergie et thermorégulation, vitamine B et C pour réduire le stress oxydatif sur les muscles lors d'efforts longs, plein de beaux mots pour dire que c'est de la grosse bombe pour les sports d'endurance. Fait que sautez là-dessus, utilisez le code promo UPICAPOD 10 pour 10% de rabais. Puis en passant, il y a beaucoup de monde qui écoute le podcast d'UPICA qui commande du UPICA parce que je vois passer le code promo beaucoup et ça me touche. Fait que on va une dernière plug. Si vous écoutez sur des plateformes de streaming audio en ce moment, laissez un rating, optimalement 5 étoiles si vous trouvez que ça en vaut la chandelle, mais aussi un commentaire, ça fait une grosse différence pour l'algorithme, puis je vous en remercie beaucoup, fait que bon podcast. Puis ça a bien été, sinon la suite du week-end, là, c'était cool?
Ouais, c'était vraiment nice, là, mais ça, de rencontrer genre Pierre Lavoie puis de parler avec lui, c'était vraiment chill. Là, même on a échangé nos coordonnées, puis dit comment on va s'en reparler, tout ça. Puis durant la semaine, j'avais fait le camp d'entraînement de natation. Puis j'avais assisté à la conférence de Normand Piché, qui a fait des comme 5 continents. Pour dire, ça m'a comme motivé, ça m'a donné un petit drive mental.
Ça t'a craqué?
Avant la course. Là, parce que c'était comme 12 kilos, c'est pas tant long de natation, mais t'es comme, tu sais, lui, le gars, il a fait genre, il a traversé 5 continents, mec, ça paraît rien. Fait que mentalement, ça donne un petit peu de confiance. Puis tu dis, au moins, il n'y a pas de requin dans le lac.
Ouais, c'est ça, exact. Il n'y a pas de requin, puis tu sais, pas de risque d'hypothermie non plus, vraiment, dans cette journée-là.
Ouais, non, c'est
plus,
ça.
Ouais, tu sais, fait que c'était. Non, mais 12 kilos, c'est une belle distance, par exemple. C'est pas. C'est faisable, c'est atteignable, mettons, pour monsieur, madame, tout le monde, là, tu sais.
Ouais, vraiment. Si je connais des gens qui l'ont fait. Puis que, tu sais, ça a peut-être pris comme peut-être quasiment le double de temps, mais tu sais, comme n'importe qui sait bien nager peut le faire. Surtout que, tu sais, ils sont quand même assez, c'est lax sur les règles. Techniquement, il y a des endroits où tu as des berges que tu pourrais tellement te reposer, mettre tes pieds au fond. Tu sais, les endroits que le relais, il débarquait. Tu sais, le monde, ils font un duel, techniquement, tu pourrais te reposer là. Moi, j'avais le goût aussi, je nageais, j'étais comme, je préfère genre un 2 secondes reposer.
C'est quand même du stock en natation, c'est ça l'affaire parce que. tu sais, dans, en course à pied, mais non, on roule, là.
OK.
En passant, ouais. Si jamais...
Ouais, j'ai n'importe quoi.
Ouais, ouais, mais c'est, en course à pied, tu sais, tu peux marcher, là. Tu sais, marcher, c'est une possibilité quand, mettons, mais tu veux reprendre ton souffle ou, tu sais, manger ou quoi que ce soit. Quand ça casse, mettons, en natation, il n'y a pas de... pas vraiment de pause, là. Tu sais, tu peux pas vraiment, après deux heures, quand tu commences à avoir des crampes, puis tu peux pas te reposer vraiment, là. Tu sais, c'est du stock, là.
Encore plus, et là, tiens, on avait des conditions vraiment calmes.
Ouais.
Mais tu sais, des fois, il y avait des gros bateaux, puis là, tu sentais la vague.
Ouais.
Puis là, je m'imaginais comme quelqu'un qui allait faire ça, tu sais, comme... Tu fais la traversée, puis tout le long, c'est le même.
Ouais.
Le moment que, genre, t'essaies de te reposer justement sur le dos, d'essayer de manger... t'as la houle en plus, fait que t'as aucun moment, tu sais, de 100% te reposer, que techniquement, là, tu t'es vraiment bunké, tu préfères l'étoile sur le dos.
Tu peux, ouais, ouais, techniquement, ouais, je comprends.
C'est pas idéal, là, si t'essaies de racer, là, mais t'sais...
Mais dans des, y a des conditions, tu sais, moi, j'ai suivi la traversée du lac Saint-Jean beaucoup, là, dans ma vie, puis Xavier, qui est venu, ben, que tu connais bien,
ouais,
qui est venu sur le podcast aussi, tu sais, lui, j'ai déjà vu dans des conditions absolument débiles, là, à manger, man, avec des vagues de comme 4 pieds, puis à devoir être rester dans le pack, puis genre, être à bloc, d'être vraiment à l'effort pendant des 15 minutes, là, où est-ce qu'il y avait des accélérations, puis de devoir manger, ou tu sais, mais c'est, moi, ça m'a toujours vraiment fasciné, là, de faire ça, parce que t'arrives après ça dans un triathlon, mettons, sur un Ironman, puis tu sais, ta boisson, puis ton manger, t'es en position aérodynamique, puis tu manges, puis ça...
Ouais, c'est simple.
Y a pas de danger, ouais, non, là, t'sais. Tu peux pas avaler une tasse d'eau, là, mettons, là.
C'est ça, toute la... Tout devient très complexe durant une épreuve d'eau libre.
Ouais.
Parce que, tu je parlais, j'ai fait une conférence justement sur la nutrition, puis je disais que, comme, tu sais, en vélo, tu vas manger, ça affecte aucunement ton temps.
Ouais.
Mais tu sais, à chaque fois que tu vas manger ou boire en natation, t'as peut-être un... Tu perds un 5-6 secondes, tu sais.
Ouais.
Parce qu'il y a le temps que tu arrêtes, mais aussi tu as le momentum de tu ralentis, il faut que tu repartes un peu.
Mm-hmm.
Mais fait que c'est toutes des choses à considérer encore plus. Puis encore, c'est encore plus tough quand justement il y a des méga vagues,
ouais,
également. Là. Puis là, tu avales de l'eau. Comme je pense que j'avais besoin comme de faire pipi comme au moins 3-4 fois durant la race. Puis c'est comme,
trop avalé d'eau.
Parce que j'ai beaucoup trop avalé d'eau. Là. Une chance, c'était comme c'est un beau lac.
Ouais.
Là, t'sais, mais t'sais, Xavier Dernier, justement, tu fais des compétitions. Dans les conditions, des
dans
fois,
mer,
dans l'eau.
L'eau salée,
ouais,
même.
C'est ça, si t'avales, tu peut-être 2 heures, si t'avales de l'eau salée, tu peux se pire, mais si tu fais un 32 km dans l'eau salée,
ouais,
puis t'avales beaucoup d'eau comme j'avale, alors tu vas être malade aussi,
c'est
là, ça va être dégueulasse. Ouais.
C'est sûr. On en a parlé un petit peu en fin de semaine, parce qu'on s'est vu en fin de semaine à Tremblant, pour ceux qui nous écoutent. Puis, je veux qu'on en parle un petit peu plus. Là. Fait que là, t'es allé à Sherbrooke pour ton doc.
Ouais, exact.
C'est ça. Puis peux-tu me parler, puis parler au monde qui nous écoute de ton doc? C'est quoi ton projet?
Oui, c'est ça. Je fais un doc en sciences de l'activité physique, donc sciences, ouais, du sport. Puis c'est un... En fait, moi, quand j'avais fait ma maîtrise à l'UQTR, à Trois-Rivières, puis j'avais été cobaye, mais participant pour une étude à Sherbrooke. C'est un ami, David Jacker, lui, faisait une étude sur... Ouais. Sur le sport d'endurance.
Ça fait deux fois qu'on en parle justement de David Jacker sur le podcast. Il va falloir le recevoir.
Ouais, vraiment, faut que tu l'invites. Là, vraiment,
C'est un crinqué des stats, lui-là.
Ah, c'est la personne la plus crinquée par rapport à ça. T'sais, il va. Tu sais, il y a des gens qui vont peser leurs souliers ou des choses de même, ouais, mais lui, il pèse ses gels, tu sais, des affaires de même. Tu sais, il fait beaucoup de ski mo aussi. Tu sais, du ski mountaineering, puis il pèse. Tout va peser, puis tout ce qui est aussi côté physiologie,
ouais,
il est quand même très intense,
ouais,
là-dessus. Ce qui est justement le fun, justement, de faire un doc là-dessus, c'est que. Ce que tu étudies, tu peux le mettre en pratique.
Exact.
Durant tes entraînements, durant tes compétitions.
Ouais.
Fait que t'es ton propre cobaye également. Fait que bref, j'avais fait une étude. C'était comme un long effort de vélo. Puis c'est voir sur l'effet de l'hydratation. Donc, boire sa soif ou boire de façon planifiée. Puis j'avais vraiment aimé, comme j'avais rencontré le prof qui était là, Eric Goulet. Puis lui, c'est vraiment un prof qui spécialise sur l'hydratation. Tu sais, comme dans le monde, il est dans une des personnes, tu sais, des sommités qui est vraiment spécialiste là-dedans. Tu lis quelque chose sur l'hydratation, le glycérol, l'hyperhydratation.
Son nom sera pas loin, là.
Ouais, c'est ça, tu vas le voir dans les références, c'est pas mal clair. Fait que je trouve ça intéressant, tu sais, d'avoir quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, puis qui également, lui, fait du sport, il fait du triathlon, donc du sport de longue distance. Donc, d'étudier quelque chose que tu peux mettre en pratique, puis que je trouvais ça intéressant, c'est ça qui m'a décidé de faire mon doc à Sherbrooke. Puis je trouve aussi que c'est intéressant de changer d'université,
ouais,
du bac à la maîtrise au doc. Un, t'apprends... des différents environnements, des différents professeurs également. Puis c'est vraiment plus enrichissant de vraiment de, d'apprendre de tout ça. Puis également, Sherbrooke, je trouvais ça intéressant juste pour l'entraînement. C'est exact. Vraiment comme... j'avais déjà fait du vélo un peu là-bas, puis c'est comme le paradis du vélo de gravel.
Ouais.
Puis pour la course à pied, c'est vraiment très bien également. Puis il y a un très bon groupe, je nage avec l'université, puis ils sont vraiment... C'est un bon groupe, ils sont beaucoup, puis la piscine est vraiment belle. Fait que c'était des...
Ouais.
Vu que je fais du sport également, c'est comme quand j'essaie de où je vais aller comme étudier ou même pour le travail, des affaires de même, je pense tout le temps à... Est-ce que c'est un beau endroit pour s'entraîner?
C'est un environnement sportif. Là.
Ouais, vraiment, ouais. C'est ça. Parce que j'avais fait... Après mon bac, j'avais fait mon bac à McGill, mais j'étais à Sainte-Anne-de-Bellevue parce que c'est McGill, c'est à Montréal, mais tout ce qui est nutrition puis agronomie sont à Sainte-Anne-de-Bellevue, proche de Cégep Dawson, je crois.
Ouais.
Puis, fait que j'avais pas vécu vraiment Montréal en tant que tel. T'sais, Sainte-Anne-de-Bellevue, c'est quand même bien pour l'entraînement. Je nageais avec Pointe-Claire, tout ça. Puis là, j'avais fait une session étudiant libre à Montréal, puis j'avais pas de temps, mais ça, justement, pour l'entraînement, le vélo, c'est
tough,
comme...
Là. Montréal, c'est vraiment dans la ville, difficile, ouais. Puis, non, c'est ça. Puis, il n'y a pas beaucoup d'espace, là. Tu sais, j'étais allé hier, j'ai couru, puis hier, c'était chaud en crisse, là. Sauf que quand il fait chaud, il fait chaud pour vrai. Il n'y a pas d'air, ça ne circule pas. C'est pas super, là.
C'est ça,
sort de la ville. Là,
ouais, c'est ça. Moi, je suis vraiment plus quelqu'un. J'ai tout le temps vécu dans la nature. J'ai tout le temps été dans les Laurentides. Fait que pour moi, j'ai besoin comme... Tu sais, Sherbrooke, c'est un bon mix entre une ville, puis comme...
La nature, là.
En deux, en cinq minutes, t'es hors, t'es parti de la ville, puis t'es comme dans des champs avec des vaches un peu partout, là. Fait que...
Puis, par curiosité, qu'est-ce que ça disait, l'étude, sur boire à sa soif ou boire selon planifié? Te rappelles-tu?
Je me souviens pas exactement c'était quoi, mais souvent, ce qu'on remarque justement dans la littérature, puis il me semble que c'est ça aussi également le constat de cette étude-là, c'est que boire à sa soif, c'était aussi bon que boire de façon planifiée. Mais ce que je me souvenais aussi, c'est que boire de façon planifiée, c'est vraiment des quantités... C'est des quantités raisonnables, mais c'est beaucoup plus que ce que j'ai l'habitude de prendre en entraînement. Puis ça te fait réaliser que des fois, sûrement quand tu t'entraînes, même durant les compétitions, tu bois probablement pas assez selon les recommandations. Mais en tant que tel, ta soif, c'est vraiment... notre corps est vraiment bien fait pour savoir...
C'est un bon indicateur.
C'est vraiment un bon indicateur. Surtout c'est pour les personnes en santé, tout ça. Pour les personnes âgées, justement, là, ta soif commence à être un peu altérée, ta perception de la soif.
Tu la sens moins un peu.
Puis c'est ça, la plupart des personnes âgées, justement, vont vivre dans un état de déshydratation. Puis justement, une des études qu'en fait, on vient de terminer la semaine passée, c'est on essaie de voir si c'est avec des personnes âgées, puis si on essaie de voir si d'être dans un état d'hypohydratation, donc déshydraté, mais seulement à 1%, ça affecte comme ta perception de douleur. Fait que vu que les personnes âgées sont souvent déshydratées, puis des fois, c'est pas beaucoup, mais quand même 1%, puis ils ont souvent justement de la douleur parce qu'ils ont des maladies ou plein de blessures, des choses, mais plusieurs maladies ou des problèmes comme ça. Fait que si en plus, ils ont déjà la douleur qu'ils ont de façon standard, mais en plus, ils sont dans un état d'hydratation et que ça augmente encore plus leur perception de leur douleur. Donc, si on pose des questions par rapport à leur douleur, mais également, on met un casque de EEG pour vraiment voir c'est quoi. Donc, on donnait des petits chocs sur leurs pieds pour voir est-ce que ça allait avoir un effet là-dessus. Fait que c'est quand même intéressant parce que là, 1%, c'est pas beaucoup, mais là, on sait que tu sais, dans le sport, généralement, c'est comme 3-4% de déshydratation. Là, ça affecte, ta performance, mais également, ça peut-être affecter aussi ta perception de la douleur. Puis souvent, justement, un peu de ce qu'on a de notre lab, puis mon prof, on essaie de se battre un peu, ou notre opinion, puis de ce qu'on essaie de prouver ici dans nos études, c'est que souvent, c'est mis qu'à partir de 2% de déshydratation, ça affecte ta performance. Ou même des fois, souvent, on entend de dire que dès que tu es un peu déshydraté, ça affecte ta performance. Mais nous, ce qu'on a montré, mais le lab a montré, puis mon professeur Rigoulet, c'est que jusqu'à 4% de déshydratation, ça affecte pas vraiment ta performance.
Ah ouais, hein?
Parce que souvent, ce qu'on va faire, c'est que les études, ils répliquent pas vraiment ce qui se passe à l'extérieur. Tu sais, ça va être dans des laboratoires chauds, mais avec aucun vent. Tandis que, tu sais, quand tu fais du vélo, des choses comme ça, ou même quand tu cours, il faut que tu aies un vent pour stimuler vraiment, pour que tu aies une validité externe, c'est la plus meilleure possible. Il faut que tu aies un vent qui stimule l'intensité que tu cours. Fait que si tu cours à 15 km/h, il faut que ton vent soit là. Parce que c'est sûr que sans ce vent-là de 15 km/h, c'est la chaleur paraît beaucoup plus tough. Donc, l'effet d'hydratation va être beaucoup plus gros en tant que tel. Fait que c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que des fois, tu peux souvent dans les messages qu'on voit dans le public, c'est vraiment, il faut que tu bois vraiment beaucoup. Puis, tu sais, les gens, on va voir qu'ils vont peut-être courir un 20-30 minutes, vont courir avec la grosse
veste, sac d'hydratation.
La grosse sac d'hydratation. Puis justement, récemment, il y avait l'émission L'épicerie qui était au laboratoire. Puis justement, c'était un des points qu'on voulait un peu... On parle un peu des mythes par rapport à ça. Puis c'est un des mythes que, tu sais, souvent, on a tendance à trop pousser le fait qu'il faut absolument boire durant un effort. Puis généralement, tu peux te le permettre d'avoir un certain niveau d'hydratation. Puis un bon exemple, c'est... T'sais, en triathlon, un des meilleurs, mais en fait, le meilleur Canadien puis un des meilleurs au monde, c'est Lionel Sanders. Puis je pense que des fois, il se met dans sa tête certaines idées, puis quand il y a une idée dans la tête, il va y aller à 100%. Puis c'était
le pire ennemi de Lionel Sanders, c'est lui-même. Sanders,
exactement. Puis même plein d'autres athlètes, ils ont dit ça, tu sais. Parce que c'était dit dans sa tête, il avait calculé son taux de sudation, puis il voulait à 100% finir. Le remplacer à 100%, mais c'est impossible. Un événement qui dure 8 heures, si tu perds un 2 litres par l'heure de boire 16 litres, ouais, même essayer de finir en état de 2%, c'est pratiquement impossible. Puis il avait parti le vélo avec comme un camelback sur le dos, plein de bouteilles sur son vélo. Puis après, une certaine quantité maximale que tu veux boire, puis après, ton ventre, il est juste plein, puis ça fait swoosh dans ton estomac, tu sais.
Ouais.
Puis en plus, ça affecte après ce que tu essaies de prendre comme glucides parce que ton estomac, il est max out là, un peu.
Ça, on en avait parlé avec Nicolas qui était venu ici, là, qui est nutritionniste sportif. Ouais. Là. Puis lui, il nous parlait du fait de la... Si tu bois trop, après ça, il faut que tu prennes plus de glucides justement parce que sinon ton corps fait un genre d'appel d'eau là, ou quelque chose comme ça. Là. Puis que comme c'est contre-productif de soit trop boire ou pas assez boire, t'sais.
Mais justement, en fait, si tu veux vraiment bien assimiler ton eau, c'est mieux de prendre de l'eau. L'idéal, c'est de prendre de l'eau avec un peu de glucides puis un peu d'électrolytes. T'sais, prendre de l'eau straight sans rien.
Prendre du pica, dans le fond, là, pour ceux qui nous écoutent. Là.
Moi, je vais pas dire ça parce qu'on est compétiteurs. Ouais. Non, mais j'ai goûté tes produits puis c'est vraiment, vraiment excellent.
Ah, écoute. Mais, OK.
Mais c'est ça, c'est idéal. T'sais, justement, t'sais, prendre de l'eau straight, c'est que en proportion, tu vas plus l'uriner, tandis que tu prends quelque chose justement comme c'est un produit comme Epica.
Évidemment, c'est pour ça, la rétention d'eau. Là, on sent.
Ouais, c'est ça.
Puis, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que moi aussi, j'ai comme... Moi, je suis vraiment énormément. Là. Puis des fois, j'avais comme un genre de... Vraiment une grosse baisse d'énergie quand il faisait, tu sais, chaud ou whatever. Puis je pensais que c'était ça, tu sais. Je pensais que c'était un manque d'hydratation. Pour finalement réaliser que c'était juste un manque de glucides. C'était un manque d'apport en glucides. Puis qu'au final, ma déshydratation se montrait beaucoup plus, puis se montrait seulement, en fait, par les crampes.
Okay.
C'est quand je crampais, là, je savais que c'était parce qu'il manquait d'eau, là. Tu sais, il manquait d'hydratation.
Des grosses crampes musculaires.
Des crampes musculaires. De comme, ou juste, tu sais, mon premier ultra année, je suis tombé. Puis là, ça faisait longtemps, ça faisait longtemps qu'on courait, ça faisait genre 7h30, puis il faisait chaud, j'avais sué en masse, puis pendant des longs bouts, j'avais plus d'eau, tu sais, parce que j'avais soif, puis je passais à travers mes 450 millilitres, puis tu sais, c'était that's it pendant longtemps avant le ravito, mettons. Puis je me rappelle, je suis tombé, puis là, je suis venu pour me relever, crampe dans les abdos, là, genre... complète, là. Fait que genre les abdos qui crampent complètement, après ça, tu viens pour te relever, t'es plus capable de mettre un soulier parce que la cuisse crampe, là. Moi, c'est comme ça que ma déshydratation se présentait le nez, là.
C'est ça, les crampes, c'est vraiment quelque chose qui est comme très complexe, puis comme, il y a beaucoup d'études là-dessus, puis c'est tough de savoir justement c'est quoi la cause de ça, t'sais, réelle. Puis moi, des fois, j'ai de temps en temps, mais souvent, j'avais remarqué que comme, tu sais, les nageurs, souvent, on nage 2 fois par jour, puis le matin, personne n'avait de crampes, c'est tout le temps l'après-midi, là, je me rappelle une fois, il y a un training qui est comme, il y avait comme quasiment 3-4 personnes qui étaient sur le bord de la piscine, qui avaient toutes crampes, crampes. Genre, tu sais, quand il y a des gros sets, tu as la fatigue du premier training le matin. Puis moi, des fois, justement, ça allait peut-être arriver dans les mollets. Mais la première fois, j'ai eu vraiment des grosses crampes en course et j'ai fait le marathon du Mont Mégantic, qui est justement comme un marathon, mais en trail, beaucoup de dénivelé. Puis c'est justement des grosses crampes musculaires. Puis justement, tu sais pas c'est quoi vraiment, vraiment la cause. Puis. Tout ce que tu peux faire, c'est justement essayer de marcher un peu, bouger les muscles un petit peu. Ouais. Parce que la pire affaire à faire, c'est tout de suite d'arrêter et rien faire. Faire des petits mouvements, pas de grosse amplitude surtout. Puis justement, essayer de voir si soit manger ou boire. Puis boire avec des électrolytes,
ça va aider. La science ne dit pas que les crampes sont liées à la déshydratation. Moi, je suis sûr que oui. Mais je veux dire, j'étais sûr que oui, mais peut-être que...
Une partie, ça peut être la déshydratation et peut-être aussi le manque d'électrolytes. Okay. Ouais. Mais des fois, c'est pas la cause.
C'est juste la fatigue musculaire.
Ouais. C'est ça. Des fois, c'est plus une fatigue musculaire qu'autre chose. Fait que tu peux être 100% comme... Mais eux, hydratés, fait que bien hydratés, puis quand même avoir des crampes, juste parce que tu fais créer des bris musculaires. Puis surtout, encore, le pire, c'est justement tout ce qui est comme des mouvements excentriques. Donc, tu descends une côte en course à pied.
Ouais.
C'est ça qui est vraiment tricky. Puis moi, je pense que c'est peut-être ça qui avait causé ça, parce que j'essaie de suivre un autre ultra-runner qui est vraiment bon dans les descentes.
Mm-hmm.
Puis je m'étais jamais autant poussé dans une descente, fait que je faisais des grosses enjambées pour essayer de le suivre. Puis là, à la fin de la côte, c'est là que mes jambes ils ont comme spasmé quasiment. Puis c'est à chaque fois que je faisais des grosses enjambées, comme une fois, moi aussi j'étais tombé. Fait que en tombant, tu essaies de pas tomber. Fait que là, tu fais une grosse enjambée. Puis là, j'ai recrampé encore. Fait que là, mais des fois, ça part rapidement. Mais des fois, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des produits comme justement le jus de pécole, le jus de cornichon, puis aussi la capsaïne, qui est un produit que, mais en fait, une molécule qu'on trouve dans les piments forts, qui peut techniquement aider pour les crampes. Puis ça joue dans... C'est comme un nerf, je pense que c'est le nerf triactif. Mais je vais pas dire le nom parce que je trouve un trompé, mais c'est genre de nerf que... Ça, c'est comme... C'est quasiment... Ça surprend tellement. C'est tellement... Un, le jus de pécole, c'est comme... C'est sûr. Puis la capsaïne, c'est vraiment... C'est fort. Fait que ça joue là-dessus. Puis c'est comme si ça détend un peu les muscles.
Fait que genre, mettons, tu sais, les piments bananes. Si mettons que j'arrivais avec ma genre de piment banane en ultra dans un ravito, mettons, ça pourrait être bon, ça?
Moi, je sais pas si c'est certain... Si c'est tous les piments qui l'ont. Okay, les piments bananes, c'est comme des piments... Comme dans les Subway, on sait
ouais,
des fois,
ouais,
là.
Ouais. Ben, les piments forts, là.
Ouais, c'est ça. Je sais que les piments comme rouges, les petits, okay, ils ont ça. Il y a des compagnies qui font justement des petits shots comme ça de capsaïne.
C'est pour ça qu'on voit souvent à UTMB l'an passé, au Ultra Trail du Mont-Blanc, c'était François Denne qui a gagné, qui, en est, tu le vois dans un ravito, il y a juste une grosse jarre de cornichons, puis il fait juste se claquer des cornichons là, non-stop. Là,
au ravito, je pense que ça peut être une des raisons aussi, puis il y a peut-être aussi également le sodium dans ça également. Ouais, là, fait que si t'as les deux positifs des cornichons. Dans le fond, les pécoles, c'est le super.
Mais c'est surtout, que ça change aussi le mal de place. Quand t'es sur des gels et des barres de glucides non-stop, ça doit être le fun d'arriver et de pogner de quoi de salé, là, de vinaigré salé.
Moi, c'est pratiquement la meilleure affaire pour couper. C'est comme complètement l'extrême, justement, du sucre, c'est le
couper
sour.
Couper l'espèce
dans le fond,
de goût.
Sour aussi, puis sel, dans le fond. Tu sais, même des fois, je prenais des petites passes, pas les passées, mais les petites languettes de listerine, dans le fond, pour mettre dans la bouche. Puis là, c'est comme si ça.
Ça clean le palais.
Ça clean, c'est comme si tu venais de te laver les dents.
Ouais.
Parce qu'une fois, j'ai un ami qui avait fait justement le Canada Man, l'Iron Man, comme extrême. Puis lui, je sais pas au quel moment durant la course, mais c'était brosser les dents.
Ah ouais.
Parce qu'il était tanné de justement prendre des gels. Fait que là, je m'étais dit, je vais tester ça, tu sais, des fois, soit de manger de la gomme ou prendre des choses comme ça. Puis également, comme le menthol, ça peut aider également quand il fait très chaud. C'est comme ça le dit à ton cerveau.
Ouais.
Ça a un effet tellement rafraîchissant que ça dit à ton cerveau qu'il fait pas si chaud que ça.
Mm-hmm.
Fait que ça te permet de te pousser encore plus, en fait, d'atteindre une température corporelle comme encore plus élevée. Parce que justement, c'est comme ton cerveau, il te limite d'atteindre une certaine température corporelle quand il fait très chaud.
Ouais.
Mais en disant à ton cerveau qu'il fait pas
tu
si chaud,
un peu,
tu peux peut-être atteindre un point 5 ou quasiment 1 degré Celsius de plus, qui peut paraître pas grand-chose, mais tu sais, pour un athlète qui se pousse,
énorme,
c'est énorme, là, vraiment. Ouais. Là, ouais.
Parlant du Canada Man, t'arrives d'une victoire au Canada Man?
Ouais, là, ça fait
mais
environ
pour ceux
un
qui
mois,
nous écoutent, là, explique le Canada Man parce que c'est une des affaires les plus insane que tu peux faire.
Moi, ouais, en fait, c'est comme...
Fait que c'est la distance Ironman.
Ouais.
Mais, ben, la natation, c'est telle que telle. Là, c'est en lac.
Ouais, un 3.8 en lac, mais tu pars à 4h30 le matin, fait que c'est dans le noir.
Ouais.
On a une petite lumière sur notre casque.
Ah ouais, hein?
Puis même à cause de ça, faut qu'on nage avec une bouée. Pour juste pas quelqu'un qui part à la dérive et qui t'en va plus jamais.
Ouais. Après ça, 180 kilos de vélo sur gravel ou
non,
en
le vélo, c'est en vélo standard, mais vraiment du gros
dénivelé.
Je pense que c'est peut-être 3500 mètres de dénivelé.
Sur le 180?
Sur le 180.
Ouais. Ah, oh, OK.
Puis je pense que c'est ça. Je pense que le total, ça donne peut-être un 4000 mètres de dénivelé, si je me trompe. 4 ou 5000 mètres
puis
de dénivelé.
Est-ce que le monde est. Est-ce que sur le 180 de vélo, le monde est en contre-la-montre ou est-ce que, étant donné qu'il y a du dénivelé en masse, le monde, ça vaut la peine d'être en vélo de route?
C'est ça. Moi, j'hésitais un peu au début. Puis j'ai vu quelques personnes en vélo de route. Mais la plupart du monde ont des vélos de triathlon.
Ouais.
Des fois aussi, c'est juste parce que c'est comme c'est ça qu'ils sont habitués de faire toute leur Ironman, ouais. C'est ça qu'ils prennent. Personnellement, je pense que c'est ça la meilleure option parce que t'as quand même des longues sections qui sont relativement plates, mais t'as quand même.
Ouais, ouais.
Puis t'as du gros vent, souvent du gros vent de face. Fait que si tu peux être plus aéro sur ton vélo de triathlon,
ça vaut la peine.
Ça aide beaucoup. Puis, mais tu sais, personne n'avait une roue pleine. Là. Ouais, une roue pleine, ouais, c'est comme une roue disque. Ouais, puis ouais. Ça, c'est lourd. Puis ça te nuit un peu plus qu'autre chose.
Ouais.
Mais c'est surtout, t'as deux grosses côtes. Puis tu finis avec une très grosse côte qui est comme la côte, qui s'appelle la côte magnétique. Parce que c'est comme. Apparaît, quand tu la vois de loin, elle apparaît vraiment pas si pire. Je me souviens d'avoir fait le parcours la veille, puis j'étais comme, oh, c'est vraiment pas si pire. Ouais. Mais après, quand tu es dessus, ça paraît comme interminable.
Chose, c'est à la fin.
C'est magnétique parce que justement, tu as l'impression de pas avancer, puis ça te retient. Puis c'est la première fois qu'il fallait que je monte un peu la côte sur, en zigzagant. Puis c'est Céline Bessette qui m'avait suggéré ça. Elle a dit, fais le paperboy, puis justement, de zigzaguer, parce que justement, ça te permet de. Tu vas quasiment plus vite qu'essayer de grinder. Ouais. Là. Parce que c'est toute une question de justement. Vu que c'est tellement un gros challenge que tout le côté matériel, justement, comme ta question par rapport au vélo de TT, par rapport à vélo de route, ou avoir une roue pleine, tu sais, quel type de roue. Puis également, tout ce qui est comme question de grosseur de plateau, c'est à considérer parce que tu vas avoir quelque chose qui te permet de bien monter les côtes, mais tu veux quand même avoir quelque chose d'assez gros pour quand c'est sur le plat, de pouvoir quand même pousser assez droite pour pouvoir avancer. Fait que c'est tout qui est tricky. Fait que, tu sais, je m'étais mis quelque chose pour penser que j'allais pouvoir monter relativement facilement la côte magnétique. Ouais. Mais à la fin, il fallait quand même que je zigzague.
Puis après le vélo, bien évidemment, tu finis avec une distance marathon. Fait que 42.2 ou je sais pas point quoi, là, mais sûrement dans ce point-là.
42 quand même assez précis.
Puis, mais ça finit en montant le Mont Mégantic.
Ouais, exact. Puis même les premiers, genre... 500 mètres ou 1 kilo, c'est vraiment grosse montée également. Ouais. Mais en fait, le premier demi-marathon, il n'est pas si pire. C'est quand même assez roulant. Puis après, tu as des sections un peu sur du gazon, un peu en tuelle. Tu as une autre section qui est comme la section sauvage, que ça, je n'ai jamais fait avant le parcours. Ça m'a bien surpris. Là, tu es comme à une vingtaine de kilos, presque 30. Puis tu as des grosses côtes, puis du single track. Puis c'est après, tu arrives comme au secteur, l'observatoire du Mont Magnétique. Puis là, c'est une méga montée, tu sais, c'est juste 8 kilos, mais tu sais, ça m'a pris comme 1h20 faire ça, là. Fait que c'était comme quasiment le... Mais en proportion, c'est quasiment ça qui prenait le plus le temps de course.
Combien de temps,
course,
finalement, ça t'a pris combien de temps en tout?
9h40 pour tout, ouais.
C'est quand même du stock, là.
Ouais, non, c'est long, tu sais, parce que, mettons, mon meilleur Ironman, c'est comme en bas de 8h30.
Ouais.
Fait que c'était 1h10 plus que ça. Puis la part du monde... Fait le record de parcours, c'était comme 11h ou peut-être 10h59. Puis moi, je m'étais dit, peut-être que c'est possible de faire 10h30. Puis beaucoup de monde me disait comme, non, tu sais, c'est pas possible. Ouais. Fait que dans ma tête, je me fixais plus justement 10h30. Là. Fait que je me disais comme quasiment un 2 heures de plus qu'un Ironman standard. Ouais. Là. Parce que c'est plus la course à pied qui prend plus de temps que le reste.
Ouais.
Le vélo aussi, parce qu'il est tricky. Mais vraiment,
le vélo, dans le fond, c'est un course qui est difficile.
Ouais, c'est ça, exact. Ça.
Ouais, ouais.
Ce qui est le fun, c'est qu'il y en a un peu partout dans le monde. Ouais. La grosse course, en fait, elle avait lieu en fin de semaine. C'est le Norseman en Norvège. Puis en fait, ça aussi, ça finit avec une grosse montée en montagne.
C'est tout le même genre, dans le fond. C'est la distance Ironman, mais comme...
Mais les parcours extrêmes, ouais.
Parcours
comme
extrêmes.
Chacun a leur petite chose qui la différencie. Comme le Norseman, tu as le finish... qui est vraiment tricky. Tu sais, le parcours de vélo est pas si pire au Norseman, selon ce qu'on m'a dit, mais c'est aussi la natation. Tu pars d'un bateau dans un fjord, genre.
Ah ouais, hein?
Le milieu de la nuit également, c'est comme il doit être 5 heures du matin ou quelque chose comme ça. Puis l'eau en fin de semaine, était à 15 degrés, mais des fois, ça peut être encore plus froid que ça, là.
Ouais.
Fait que tu vois rien, tu vois la rive qui est comme à 4 kilos, tu t'en vas vers là.
C'est du stock pareil. Hein.
Ouais, c'est vraiment... C'est ça qui est le fun, je pense, c'est... au début, je pense que les Ironman, beaucoup de gens étaient comme... Je vais faire un Ironman, puis je vais faire un bon temps, puis je vais prendre le parcours le plus vite possible. Tu sais, je vais faire Ironman Floride, Ironman Arizona, des choses comme ça. Puis là, de plus en plus, tu sais, on voit avec la mode des ultramarathons, des choses comme ça, les gens, ils cherchent des plus gros défis. Il y a des gens que ça fait peut-être 5-6 ans ou plus qui font des Ironman. Fait qu'ils disent, c'est quoi le next step?
C'est quoi la prochaine affaire,
Puis tu sais, des fois, tout le temps, essayer de chercher comme un meilleur temps sur le même événement.
Ouais.
des fois, c'est le fun d'aller complètement à quelque chose de différent puis faire un, une course que le temps, justement, pas du tout
ben,
à part.
Ça. Là, moi, c'est ça que j'ai découvert. Tu sais, moi, je viens tellement d'un milieu où est-ce que les secondes, tu sais, chaque seconde est comptée. Là, mm-hmm. En natation, je veux dire, il n'y a aucun sport qui est plus basé sur le temps que la natation à piscine. Ouais, ouais, ouais. Genre, c'est que ça, là, tu sais. Puis quand...
Tu rêves, tu penses à ça.
Genre, ouais, c'est ça. Puis tu sais, je sais exactement mon premier 25 mètres, tu prends combien de temps, faut que je flippe en combien. Tu sais, toutes ces affaires-là sont tellement calculées. Puis après ça, quand j'ai fait la transition vers la course à pied maintenant, tu sais, juste de façon vraiment amateur, mais de commencer à faire un marathon, puis là, tu t'entraînes pour un marathon, puis là, c'est des paces. Puis là, faut que tu frappes ton pace, puis ton pace, il est à temps, puis ça, c'est mm-hmm. le temps. Puis là, après ça, quand j'ai découvert la trail, j'ai fait, hey, la trail, dans le fond, c'est t'avances le plus vite que tu peux avancer au moment où est-ce que t'es rendu dans la course, tu sais. Puis si t'es rendu à l'heure 12, puis que tu marches, ben tu marches.
Ouais,
t'essaies
ouais.
de marcher le plus vite possible que tu peux faire à ce temps-là, puis y a pas d'affaire de temps. Puis ça, ça m'a comme vraiment parlé. Puis parce que l'espèce d'aspect, puis peut-être qu'en triathlon, tu le sais sûrement, tu sais, dans l'Ironman, il y a beaucoup, c'est beaucoup axé sur comme... avoir le meilleur équipement, avoir le moins de poids possible sur ton bike, avoir la meilleure position sur ton bike, avoir les meilleurs souliers en carbone pour courir dans sur le track, avoir tous les paramètres. Mais là, on dirait que t'enlèves comme ça parce que, tu sais, que t'aies des souliers en carbone, quand vient le temps de monter le mont, on s'en calisse. Puis oui, les vélos, c'est important, mais en même temps, le parcours, tu sais, il bouge.
C'est ton aérodynamiste devient moins important.
Il devient moins important. Tu peux te permettre de traîner une gourde de plus. Tu sais, t'es pas obligé de calculer les grammes près de ton wattage, ces affaires-là, tu sais. Fait que moi, je suis comme, ça m'a comme vraiment parlé d'arriver dans un sport où est-ce que tu laissais de côté tout ça. Tu sais, puis qu'à l'espèce de culture de genre, hey, finalement, à la fin, on prend une bière ensemble, puis le monde, on s'en sac, là. Si tu veux manger un Joe Louis, man, pendant ta course, mange un Joe Louis, tu sais.
Ouais, ouais, ouais.
J'ai vraiment aimé ça, à la place de comme, on s'éloignait un peu de l'espèce d'affaire vraiment calculée, là, tu sais.
Mais c'est ça que j'ai réalisé aussi, en fait, durant, tu sais, première année du COVID.
Ouais.
Tu sais, jusqu'à là, c'est comme, toute ma vie, c'était l'Ironman, c'est ouais. genre ce que je pensais tout le temps, là, pratiquement, là.
Ouais.
Tu sais, des fois, t'es comme, t'es dans
comment un film. Comment maximiser mon Ironman? Ouais, ouais.
Des fois, j'ai comme, t'es au cinéma. Tu penses à comme, OK, si je lève un peu mes barres de triathlon, ou je changeais pour ce modèle-là, tu es tout le temps en train de penser à ça, comment tu peux optimiser soit ton équipement ou ton training ou n'importe quoi, ta nutrition. Puis là, je pense que le COVID, c'est rough au début, mentalement, parce que tu es comme, tu es à ton pic de ta performance ou de ton fitness. Puis là, il arrive ça, il n'y a pas de course pendant comme un an ou deux. Mais là, c'est là que j'ai découvert justement le trail running. Que, puis dans les Laurentides, c'est vraiment un bon spot pour courir. Ça. Fait que là, je partais. Ou justement, me défouler, mentalement, ça m'aidait vraiment beaucoup. Puis j'étais comme en train d'écrire ma thèse de maîtrise. Fait que j'avais juste des fois besoin de décrocher pour 2-3 heures. Puis aussi, justement, c'est ça, je trouvais ça le fun parce que la course à pied, tu pars courir 2 heures, t'as fait un gros training.
Ouais.
Tandis que, mettons, en triathlon ou dans d'autres. Tu sais, en vélo, 2 heures, c'est pas tant que ça, tu sais.
Ouais.
Puis justement, c'est comme tu finis ça, puis t'es comme, waouh, j'ai comme. Chaque course que tu fais en trail, c'est comme tu vis une expérience.
Exact,
en tant que tel.
Ouais.
Puis c'est là vraiment que j'ai eu comme... j'ai retrouvé comme ma passion pour le sport, sport-là en général. Puis peut-être... J'ai tout le temps eu cette passion-là, mais j'ai peut-être justement enlevé la pression que je me mettais sur moi-même où j'ai recommencé à plus aimer jouer, tu sais, dehors.
Ouais,
en tant
exact,
que tel.
C'est ça.
Tu sais, je me donnais moi-même des défis... comme des fois, je partais en gravel bike avec mes souliers de course. Je parkais mon vélo à quelque part. Je le
cadenassais,
ouais, c'est ça. Puis là, je partais courir une montagne. Ou des fois, j'ai fait une swim run dans mon coin, dans les Laurentides. Fait que je nageais un lac, je courais avec mes souliers.
Ouais.
Je courais un peu, je nageais un autre lac. Des choses comme ça. Juste pour te challenger, puis justement apprendre à t'amuser, à t'entraîner. Pas du tout justement penser à ton pace. Puis... c'est pour ça que je trouvais que le Canada Man, c'était un bon challenge pour ça.
Ouais.
Puis je pense que ça m'a redonné le goût de comme de t'entraîner pour un gros challenge comme ça.
Ouais.
Puis pas du tout justement penser à ton temps tout le temps. Y aller vraiment pour le challenge de la course. Puis même si je veux être compétitif, ça reste le plus gros challenge, c'est tout le temps de compléter la course en tant que telle parce que
c'est
un gros challenge. Fait que c'est quand même c'est difficile. Fait que c'est ça qui est le fun.
Ouais, puis j'imagine que ça remet aussi en perspective, tu sais, une fois que tu fais le Canada Man, là, mettons, t'es inscrit, tu fais l'Ironman de Tremblant dans une couple de semaines.
Ouais, deux semaines, ouais.
Dans deux semaines. Tu sais, ça remet aussi en perspective un peu l'ampleur d'un Ironman, on dirait, là. Tu sais, dans le sens où là, t'en as fait un avec du dénivelé à la fin, ouais. Là, tu sais, t'arrives, c'est un marathon sur route, là. Genre, ça va être correct, là, ouais, ouais. Même si, tu sais, faut que tu pousses plus le pace pis ces choses-là, puis tu y vas avec peut-être un objectif qui est plus...
de compétition, là.
C'est
ouais,
ça,
ouais.
Plus de compétition, mais c'est quand même... C'est moins peurant, on dirait.
C'est ça, tu sais, les premiers Ironman que je faisais, mais le premier Ironman que j'ai fait, j'avais jamais couru un marathon. Fait que c'est, c'est tout le temps comme... Le challenge, c'est juste de le finir en tant que tel, tout le temps.
Ouais.
Puis c'est surtout le fait d'avoir fait des ultras, tu sais, le fait d'avoir couru plus qu'un marathon... T'sais, la plus longue distance que j'ai couru, c'est un 80, justement celui de Arcana, t'sais, la même course que tu vas faire.
Ouais.
Fait que le fait d'avoir couru quasiment le double d'un marathon, maintenant quand je vais pour faire.
Mais le double, et puis on s'entend en termes de temps, c'est pas mal plus long. Là.
Ouais, non, exact. Fait que là, t'sais, comme je débute le marathon, t'sais, au lieu de me dire, oh, faut que je fasse un marathon, mentalement, j'ai fait comme, oh, j'ai fait le double. Puis j'ai couru, t'sais, au 40e kilomètre d'un ultra, tes jambes sont déjà détruites. Sauté, fait que j'ai déjà couru un marathon avec des jambes encore plus détruites que ça.
Ouais.
Fait que. Je trouve le ultra, justement, d'un point de vue physique puis mental, ça t'apprend à courir avec des jambes fatiguées. Puis mentalement, ça t'apprend à courir quand t'as aucune énergie, là, puis de te pousser. Même quand tu cours à un bon pace rendu au 60e kilomètre d'une course, mais mentalement, c'est après, tu peux quasiment faire n'importe
ça,
quoi. Là,
exact,
puis,
ouais.
Ça reste que, tu sais, c'est comme... Le niveau, maintenant, Ironman Pro, c'est des gens qui vont courir sub 2.40 sur marathon. Ouais, ça reste une autre coche. Il y a tout le temps comme... Tu peux tout le temps aller plus vite.
Ouais.
Mais d'un point de vue comme mental, personnellement, ça t'aide beaucoup. Puis je trouvais comme, mettons, justement, au Canada Man, c'est la première fois que j'arrivais à une course puis je me disais... Tu sais, moi, ma force a tout le temps été la natation. Après, ma deuxième, c'est le vélo puis la course à pied. Fait que ça va mal parce que tu commences avec la natation... Après, c'est le vélo, puis fait que ça allait tout le temps en dégradant, tu sais. Fait que j'étais comme, si j'ai pas d'avance en natation ou en vélo, j'étais un peu dans la merde, tu sais.
Ouais.
Puis là, c'est la première fois à cause, justement, j'ai mis beaucoup le focus sur ma faiblesse, qui est la course à pied, durant les années COVID, que je me suis dit, même si j'ai un 15-20 minutes sur le premier, parce que au Canada Man, le deuxième, c'est, il est champion du monde Ultraman, qui est une autre affaire incroyable, c'est dans le fond le double d'un Ironman que tu fais. Puis lui, il est très, très fort en vélo. Fait que j'étais prêt à quasiment y laisser un 15-20 minutes parce que j'étais assez confiant que
tu
je pouvais le chercher.
Tu savais que t'étais capable de ramener en trail, là,
Tu sais, c'est pas idéal, tu fais tout le temps être en avant ou avec, mais mentalement, le fait d'avoir cette option-là, c'est un gros plus parce que tu peux jouer avec différentes options. Tandis qu'avant, ma seule stratégie, quand les gens me demandent c'est quoi ta stratégie, mais c'était comme, tu nages le plus vite possible, puis t'essaies de survivre le reste, ce qui n'est pas une super stratégie.
Non, c'est ça. Puis est-ce que d'avoir cette stratégie-là, mettons, sur les Ironman que t'as fait, ça a fait que t'as bunké à cause que tu t'explosais à la fin, mettons?
C'est ça, parce que vu que ma force est dans la natation, c'est bon puis c'est pas bon. T'sais, en ce moment, je pense que c'est mieux, mais quand j'ai débuté en triathlon, c'était peut-être pas bon parce que j'avais justement pas les habiletés en vélo puis en course à pied pour être compétitif, pour essayer de suivre les meilleurs. Puis mon premier Ironman, il y avait un des meilleurs, comme une légende du triathlon, Marino Vanhoenacker, qui a eu comme plusieurs records du monde. Il a gagné comme plein d'Ironman. Puis il était comme vers la fin de sa carrière, mais il était quand même au top. Puis moi, j'étais sorti premier de l'eau, je pense. Puis quand il m'a dépassé en vélo, je me suis dit, mais faut que je le suive. Peu importe ton wattage, peu importe la vitesse, faut que tu le suives. Puis j'ai complètement explosé comme en course à pied. Je me suis comme évanoui. J'ai vu comme des étoiles, du noir. Puis je me suis retrouvé sur le bord du train du Nord à autour de 25 kilos. Fait que t'apprends tes erreurs. Mais tu sais, si justement j'avais été peut-être moins bon en natation, je serais sorti 5 minutes en arrière ou dans le 10e, mettons, en natation. J'aurais sûrement fait ma propre course parce que dès le début, je suis pas dans le game. Mais là, en étant déjà dans un peu... Peut-être j'ai des chances de gagner. T'es innocemment parce que clairement j'avais aucune chance de gagner, mais tu veux tout le temps y aller pour la victoire, tu sais, peu importe. Puis ça a tout le temps été un peu ma façon de racer, peu importe que ce soit un ultra de course ou un Ironman, t'es là, tu donnes le plus que tu peux, puis j'aime mieux finir 15e avec un temps exécrable, mais d'avoir tout donné.
Ouais, je comprends.
Que tu finir comme un 5-6e, mais comme... Je suis pas tant satisfait de la performance parce que j'ai traversé la ligne d'arrivée puis il me reste encore de l'énergie. Ça a tout le temps été comme donne tout ce que tu peux. quitte à exploser. Fait que ça fait que comme ça arrive
ça
souvent
à exploser. Ouais. Ouais. Puis est-ce que c'est cette stratégie-là avec laquelle t'arrives au Ironman du Mont-Tremblant dans 2 semaines?
Je pense, là, je suis un peu plus vieux. Je pense que j'ai un peu plus de sagesse. Surtout que je pense, j'ai un peu plus de confiance justement avec mon marathon.
Ouais, c'est ça.
Fait que des fois, je me dis, ça sert à rien. Tu sais, je suis pas à 100%, faut que je suive les gars en vélo. Puis c'est sûr que, tu sais, comme le meilleur, le favori, c'est Cody Beals. D'un point de vue statistique, puis n'importe qui dans le sport, tu sais, il y a pas de chance que je puisse le rattraper en course à pied. Mais ça reste que je peux quand même être dans la game puis peut-être essayer de me battre pour un podium ou aller chercher un spot pour le championnat du monde en misant pour un bon marathon. Puis je pense que la façon que je réussissais avant, c'était comme tu nages vite, tu bikes vite, tu essaies de limiter la casse le plus possible. Puis en marathon, mais
tu survis.
T'sais, puis survivre un marathon, c'est pas jamais bon, une bonne stratégie.
C'est pas bon.
Puis la stratégie que j'essaie d'avoir, c'est un peu justement de faire un bon vélo, mais qui ne nuit pas au marathon. Un vélo qui pourrait me permettre de faire peut-être un sub 2,50 sur le marathon. Mm-hmm. Puis si, mettons, si je fais un 2,48, je sauve déjà un 10 minutes sur mon meilleur Ironman. Puis je pense sauver un 15, peut-être un 20 minutes sur mon meilleur Ironman, c'est possible. Ça serait comme sub 8h10, qui est quand même loin du... Le record de parcours, c'est 7h58.
Ouais.
Mais ça me mettrait dans la game pour racer. Puis c'est tout le temps ça le but d'une race, c'est de pouvoir racer, être dans la game. Puis justement, essayer de ne pas faire des erreurs un peu... si tu vois que les gens, ils vont trop vite, mais d'être assez intelligent pour faire ta propre course.
Back down un peu.
Puis back down. Puis aussi, c'est ça qui est le fun justement de pas faire l'Ironman juste pour le compléter, mais de le faire pour racer. Puis même les meilleurs, tu sais, comme Cody Bills qui avait gagné justement sub 8h, que jamais personne n'avait pensé que c'était possible de faire un sub 8h. C'est quand même assez courant faire un sub 8 dans des Ironman, mais des Ironman rapides. À Tremblant, ça fait aucun sens. Vite, là, parce que son marathon, il a couru en 2h42, puis c'est un parcours difficile.
Ouais.
Fait
quoi, non, c'est la stratégie, c'est d'avoir un bon marathon pour terminer. Là.
Ouais, c'est ça. Puis je pense justement, d'un point de vue mental, le fait d'avoir cette confiance-là, ça aide pas mal. Puis c'est sûr, faut que tu joues la race, tu sais. Il y a un très bon nageur. Fait que si je peux pouvoir nager avec lui, ça va m'aider beaucoup. Puis justement, de profiter de tes forces le plus possible, ça t'aide. Puis c'est sûr, en race, je me permets tout le temps de pousser un 5-10% de plus que ce que tu penses être capable.
Ouais.
Mais des fois, je poussais un 30-40% de plus que ce que je suis capable réellement. Parce que, puis souvent, durant les races, si je ne check pas vraiment mon wattage, des choses comme ça, parce que souvent, tu te limites par tes propres limites. T'sais, un peu comme Sanders, son slogan, c'est « no limit
».
Puis c'est quand même assez vrai. Le meilleur Ironman que j'ai fait, tu m'as dit avant la course, comme faut que tu fasses ce wattage-là.
Mm-hmm.
J'aurais fait, il n'y a aucune chance que je puisse faire ça.
Ouais.
Mais durant la race, tu as fait toutes ces préparations-là, tu as tout l'effet de surcompensation avec ta période d'affûtage avant la course. Tu t'entraînes juste pour ça. Fait que c'est sûr que tu es capable de faire beaucoup plus que tu es capable en entraînement. Puis je pense que j'ai tout le temps été quelqu'un qui est capable de se pousser encore plus en course, quitte à exploser puis finir dans un buisson. Là,
je comprends. Je comprends. Puis mettons d'être un brin conservateur sur le vélo peut sûrement te permettre de battre des gars qui normalement courent plus vite que toi, mais que là, off the bike, c'est pas la même game pantoute, là, tu sais.
Exactement.
D'être confiant, mettons, en un marathon à deux, en sub 2,50, mettons, qui est quand même vite, mais être confiant que t'es capable de faire ça en sortie de ton bike, ça se peut que tu battes des gars qui normalement courent 2,45, mais que cette fois-là, ils ont overbike puis qui sont sautés à 2,55, tu sais.
Surtout parce que, tu sais, tous les tops, mettons, les 5, 6 premiers, tu sais, mettons, il y en a 6 qui peuvent, mettons, vraiment penser avoir la victoire.
Mm-hmm.
Si tu te bats vraiment pour la victoire, ça se peut que tu aies un pace de courir 2,45, mais en fin de compte, tu cours 2,55 parce que tu exploses au deuxième demi-marathon. Parce que c'est ça, justement, le but de racer. Tu es là pour gagner ou... Souvent, tu es soit là pour gagner, faire un podium ou chercher un spot pour le championnat du monde. Puis là, t'as 2 spots pour le championnat du monde. Fait que c'est peut-être, ça équivaut peut-être les 4 premiers parce qu'il y a un roll down ou les 5 premiers. Fait que des fois, il y en a qui vont aller all-in pour ça, puis même des fois, drop-out, ils sont justement pas capables, de, où ils voient que c'est pas réalisable. Fait que des fois, t'es comme... Pour ça, il faut tout le temps que tu te battes, parce que tu peux être au 30e kilomètre, puis t'es comme, okay, je suis putain dans la game, mais peut-être que y a exact, deux, trois personnes ça. Avant toi, soit ils vont exploser, soit ils vont
tu
abandonner.
Tu sais jamais ce qui se passe, ni en avant, ni en arrière. Tu peux juste donner ton max tout le temps. C'est ça dans le fond. Là.
C'est ça, parce que tu te pousses tellement, t'es tout le temps dans la limite de ce que tu peux faire. Comme justement Cody Bills, quand il a fait son record, le parcours, il a fini le vélo, puis il savait même pas s'il était capable de courir.
Ouais.
Le Dallon, c'est genre faire un marathon puis courir autant vite que ça.
Ouais.
Fait que t'es tellement sur le edge de ce que t'es capable de faire que tu peux facilement complètement exploser. Puis même si tu restes un kilomètre, si tu marches le dernier kilomètre, c'est beaucoup.
C'est
très long.
Exact,
fait
c'est
tout
ça.
Peut arriver dans les épreuves d'endurance. Puis tout aussi le côté nutrition. Que
exact.
Comme, tu peux juste manquer d'énergie ou avoir des crampes ou des choses comme ça. Fait qu'il faut vraiment que tu te battes jusqu'à la fin. Là, ouais.
Qu'est-ce qui t'a intéressé dans la nutrition? Pour les sports? Toi, tu faisais des sports d'endurance déjà. Qu'est-ce qui a fait? Je vais pencher plus vers la nutrition. Je vais essayer d'aller étudier ça un peu plus.
Ouais, en fait, ça, j'ai décidé de faire comme... C'est un bac en... C'est food science et nutrition science. Dans le fond, c'est pas... Je suis pas diététique, je fais pas partie de l'ordre des nutritionnistes. Mais en fait, c'est vraiment. Moi, ça a tout le temps été. Je voulais partir une compagnie de nutrition, un peu comme tu t'appelles justement avec Kipika.
T'aurais dû.
Puis.
T'aurais dû, ça marche bien. Ouais. On aime ça.
Puis, fait que c'est pour ça que j'étais allé dans. C'est un programme, je pense que c'est le seul programme en Amérique du Nord qui offre ça, ce double bac ensemble. Fait que c'est vraiment le fun. C'est vraiment pour travailler dans l'industrie alimentaire, soit travailler dans le quality assurance, donc s'assurer que la bouffe a de l'allure, ou développer des nouveaux produits, faire comme du research and development. Puis là, c'est ça, ça m'intéressait plus d'un point de vue aussi. Le côté, tout ce qui était côté entrepreneuriat, le côté marketing, je trouvais ça vraiment intéressant. C'est comme quand j'étais plus jeune, mais quand j'étais genre, mettons, au bac, j'écoutais tu sais, des Gary Vee, des choses comme ça, là, comme de hustle, là, tout ça, d'entrepreneuriat. Mais là, tu sais, j'ai fini le bac, j'étais encore jeune, je m'entraînais quand même pas mal dans le sport, puis là, j'étais comme, il me manque un peu du... une expérience de vie pour me lancer en affaires, tout ça. Fait que là, j'ai décidé de faire comme... J'ai fait une session étudiant en ligne. J'ai fait des cours en marketing. J'ai fait des cours en...
Ah, fait que c'était vraiment le plan, là. Le plan, c'était l'entrepreneuriat.
Mais en fait, j'étais vraiment perdu parce que j'ai fait comme 3-4 cours. Puis il y avait ça. Il y avait cours de kin, cours de marketing, puis cours de psychologie, genre. Puis là, j'étais comme...
Trois horizons.
Je vais sûrement faire une maîtrise, mais je sais pas dans quoi, genre.
Ouais.
Puis là... Vraiment, dernière minute, il était comme quasiment décembre, puis j'ai décidé de m'inscrire pour la maîtrise qui était débutée en janvier à Trois-Rivières. Fait que je me suis trouvé un appartement vite. Puis sur ma maîtrise, j'ai essayé de faire un combo avec... de combiner justement la science du sport avec la nutrition. Fait que je m'intéressais à un peu l'effet de comme d'augmenter ton excitation des gras sur ton oxygénation musculaire. Fait que de combiner les deux, puis en faisant le doc, bien que c'est plus hydratation, ça reste tout le temps un peu lié à la nutrition, parce que justement, l'hydratation, c'est un bon véhicule pour mettre plein d'ingrédients. Tu peux mettre justement les électrolytes, tu mets tes glucides, tu peux mettre la caféine, tu peux mettre plein de choses dedans. Fait que je touche un peu encore à la nutrition, puis c'est vraiment quelque chose qui me passionne beaucoup. Puis pourquoi justement ça m'intéressait, je pense que ma mère, elle a fait sa maîtrise en nutrition, puis elle a été, là, elle est médecin. Mais tu sais, tout le temps quand j'étais jeune, je faisais du ski de fond, tout ça, aller faire des petites présentations comme au petit club de ski de fond, genre, qu'est-ce qu'il faut que tu manges après, tu sais, comme dans le temps, c'était comme, prends ton lait au chocolat après ton effort, là.
Ouais.
Des choses comme ça. Fait que j'ai tout le temps été comme dans ce mode-là, puis j'ai tout le temps été, tu sais, la bonne nutrition, tu sais, bien manger. Quand tu te réveilles, prends tout le temps genre un plat de fruits, ça a tout le temps été comme dans ma tête, puis tout le temps été enseigné à... Ça m'a tout le temps été enseigné.
Ouais.
Fait que la nutrition a tout le temps été un peu dans mon sport. Puis j'ai tout le temps, à un jeune âge, appris que la nutrition peut avoir un impact sur ta performance. Fait que je trouvais ça vraiment quelque chose d'un sujet intéressant. Là.
Puis est-ce que tu es encore vegan aujourd'hui?
Ouais. Ça doit faire 8-9 ans. Ouais, 8 ans, je pense peut-être.
OK, fait que ça fait quand même longtemps. T'es un des originals. Puis pourquoi tu es devenu vegan?
Ouais, en fait, c'est vraiment... j'ai comme changé un peu cold turkey, dans le fond. Ouais. C'était comme... c'était la veille d'une Coupe du Monde. J'étais à Edmonton, un petit hôtel. Puis là, je scrollais comme Twitter. Genre, original Twitter, là, quand ça a débuté. Quasiment, là. Puis c'est une vidéo de... J'ai tombé par hasard sur une vidéo de cruauté animale. Comme un genre 20-30 secondes. Puis c'est ça, j'ai écouté ça, ça 20-30 secondes, ou même peut-être c'est peut-être 10 secondes, j'ai tout de suite décidé d'arrêter de manger de la viande.
Puis ah ouais, le... t'as vu ça une fois?
Tout de suite, tu sais, j'avais pas besoin de voir plus que ça. Tu sais, il y a plein de documentaires comme, mettons, Earthling,
ouais,
tout ça,
que terminé,
j'ai pas vu parce que dans ma tête, ces 5 secondes-là ou 10 secondes-là, c'était suffisant pour dire comme, ouais, je mange plus de viande. Mais ça a quand même été un peu progressif. Puis, tu sais, il y en a qui vont y aller un peu... par journée de la semaine, des choses comme ouais, ça. Moi, en fait, je suis allé par animal. Donc, ah ouais, moi, c'était hein, comme... Sûrement parce que c'était... Dans le vidéo, c'était une vache ou un ouais, bœuf, quelque chose de même. Fait que j'ai décidé d'arrêter de manger la viande rouge, le porc. Puis la fait, de façon progressive, après, c'était comme le poulet. Puis pendant un bout, j'étais comme pescadarien, peut-être un 5-6 mois. Fait que je poisson, continuais à manger ouais, du poisson. Parce que dans ma tête, je voyais pas tant le poisson. Tu sais, un animal, cochon, ouais, c'est cute, un petit cochon. Mais tu sais, un poisson, tu sais, je voyais ça comme... une autre classe d'animal, mm-hmm, tu sais. Puis là, c'est en voyant Cowspiracy que
ouais,
tu vois abattre un gros thon, genre un énorme ouais, thon qui est encore plus gros qu'un cochon. Puis là, tu vois le sang, tout ça. Fait que là, ça m'a fait dire, ouais, en fait, le poisson, c'est autant un animal. Puis ça peut être très intelligent également. Puis après aussi, Cowspiracy, c'était tout le côté de l'impact
de l'environnement.
Ouais, c'est ça, de l'impact de manger de la viande ou prendre des produits laitiers, des choses comme ça, sur l'environnement. Fait que là, c'est là que j'ai décidé de devenir complètement, complètement mm-hmm, vegan. Ouais.
Puis avec le background en nutrition, ça me surprend que c'était même pas initialement des concerns nutritionnels, là, tu sais, mm-hmm, ce qui a fait que t'as changé. Mais après ça, quand t'as fait la transition, j'imagine que pour toi, c'était important quand même de garder, de t'assurer d'avoir une nutrition complète, surtout que t'étais un athlète, là, tu sais. Ça a dû être compliqué, ça?
Non, c'est plus... C'est plus compliqué, c'était compliqué. C'est comme quand je voyageais pour, ouais, pour une course. Si je me rappelle, ma première course que j'ai faite, c'était comme un triathlon. Je pense que justement, c'était mon peut-être premier triathlon pro, genre dans une place comme New Hampshire, quelque chose de même. Puis là, j'étais comme, c'est le dîner avant la course, comme la veille. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que je vais manger, tu sais.
Mm-hmm.
Fait que, au début, c'était plus des affaires comme ça parce que quand t'es chez toi, c'est quand même plus facile. Tu fais ton ouais, propre épicerie, tu vas acheter ton tofu, ton tempeh, des choses comme ça. Fait que c'est plus quand je voyageais que je trouvais que c'était difficile. Puis justement, avec mes comme connaissances en nutrition, tous les enjeux, mettons, « Ah, je vais avoir assez de protéines », je savais que j'étais correct.
Ouais, ouais,
parce que
ouais,
je savais que c'était quoi comme un... Je savais faire la différence entre un acide aminé puis une protéine. Mettons, tu sais, je savais mm-hmm, qu'en prenant assez de légumes ou assez d'une alimentation variée, ouais, t'allais avoir tous les acides aminés puis t'allais être correct. Bien que c'est pas quelque chose qu'au début... Tu sais, ça fait une couple d'années que j'ai fait mon bac, on n'en parlait pas tant que ça, tu sais, de... Ouais. Le fait que tu pouvais justement...
Tu pouvais aller chercher tous les acides aminés pour créer des protéines complètes, j'imagine.
Ouais, c'est ça. Mais le côté comme... C'est correct d'être vegan ou que tu ouais, peux être en santé ou ouais, même tu peux performer ouais, en étant vegan, c'était pas tant là, tu sais, il y a une couple d'années. Puis là, de plus en plus, avec justement les documentaires, il y a de plus en plus d'articles là-dessus. Puis également, il y a de plus en plus de modèles d'athlètes.
Exact, c'est
de
ça.
De différents sports. T'sais, moi, quand j'ai débuté... Mes modèles, c'était comme Scott Jurek, puis il y avait Rich Roll également. Ouais. Puis tu sais, c'est deux personnes qui sont méga minces. Pour ouais, moi, c'est comme, mais c'est ça que je vais atteindre. T'sais, c'est du monde qui performe d'un point de vue d'endurance. Mais c'est sûr, comme quelqu'un qui, lui, fait du bodybuilding, quelque chose de même,
ouais,
tu vois ces deux modèles-là, t'es comme...
C'est pas ceux-là que
ça
tu
ne tente pas ouais, de ressembler à quelqu'un qui est mince de même. Ouais. Fait que là, il y a, tu sais, Serena Williams, il ouais, y a du monde qui font des hommes forts, il ouais, y a des gens qui font de l'haltérophilie. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a vraiment beaucoup d'exemples. Puis ce qu'ils font, justement, des exemples de soit des sports d'explosivité ou des sports de force. Fait que ça montre que, tu sais, il y en a qui ont peur d'un point de vue de protéines, ou tu sais, leur enjeu, que leur crainte de devenir mm-hmm, vegan, c'est d'un point de vue de protéines. Mais il y en a également, c'est la testostérone, ou par rapport, ah, j'ai besoin de manger de la viande pour avoir comme la carnitine, des choses comme ça. Mm-hmm. Mais de voir ces exemples-là que dans différentes sphères de sport, qui performent très bien, ça, je pense que ça les rassure puis ça leur permet d'avoir de faire les premiers pas là-dessus. Puis moi, ça a tout le temps été... Mon but, c'est comme en étant vegan, je voulais tout le temps être quelqu'un le plus possible inclusif puis de tout le temps enseigner les gens de façon positive
ouais,
puis d'influencer de façon positive sans avoir aucun jugement. Puis ça a tout le temps été comme... Tu sais, tu montres d'être un exemple. Tu performes bien, puis tu es vegan.
Tu montes par tes actions.
Tu montes par tes actions également. Tu fais des fois, quand tu es avec des amis, mais tu fais goûter ta bouffe, des choses ouais, comme ça. Tu amènes dans un repas, tu amènes la bouffe d'extra un peu vegan. Fait que de montrer que la bouffe est bonne, tu peux bien performer. plutôt que justement d'y aller peut-être d'un point de vue plus négatif que ouais. C'est ça que manger de la viande, c'est un meurtre, tu tues un animal. Que ça, ça a été ma porte d'entrée, mais je sais que pour beaucoup de personnes, ça va être un blocage, puis même des fois, ça va avoir l'effet inverse.
Ouais.
Mais tu sais, je pense qu'il y a plein de bonnes façons de présenter ça, puis je pense que tu sais, les gens qui vont faire, mettons, les manifestations à Canada Goût, je pense que les choses qui sont très bien et tout ça, mais moi, c'est plus ma façon ouais. que je veux y aller, plus d'un point de vue d'exemple, puis de montrer que tu peux être en santé, puis plus justement y aller de mon côté de nutrition, puis d'athlète.
Ouais, c'est ça, exact, parce que t'es comme le meilleur exemple de voir, hey, Chris, on peut faire ça, là, tu sais, c'est possible. Tu sais, mais donc, de te voir aller, là, ça encourage plus que de te faire crier par la tête, là.
C'est de faire un peu ce que, mettons, Scott Jurek a fait pour moi.
Ouais, de le faire pour d'autres personnes, ouais.
Petite échelle, là,
ouais, puis d'être moins in your face aussi, tu sais. Moi, c'est ça que j'ai découvert, là. Je suis pas mal moins vocal que je l'étais, là, par rapport à ça, mais je me dis, chaque jour, le monde me voit courir 3h30 en trail, puis revenir chez nous, puis me faire un tofu, mettons, là, tu sais. Puis que la vie continue, puis que ça va bien, puis je le refais la journée d'après, tu sais, je trouve que c'est... On dirait que c'est un meilleur exemple, peut-être.
Parce que des fois aussi, même, c'est comme... Mettons, tu vois la personne, elle gagne une course.
Ouais.
Puis t'apprends d'une autre personne. Ah, oh, savais-tu qu'elle est végane?
Ouais.
C'est quasiment plus comme... Oh, ça a un impact que si tu finis ta course, puis tu dis comme... Go végane, quelque chose de
ouais,
même,
exact.
T'sais.
Moi, c'est... ben, Sanders, justement, il a été... Je sais pas, végane, mais je sais qu'il a été végé longtemps, là, mettons. Là. Puis là, je sais même pas maintenant qu'est-ce qu'il a fait, parce que je sais qu'il a changé quelque chose dans son alimentation, mais... Mm-hmm. Mais quand je l'avais appris, je me rappelle de m'être dit comment Chris c'est hot, tu sais, il est au moins végé. Là,
ouais, ouais, ouais.
Ouais. Je voyais qu'il mangeait du tempeh, même, des affaires que moi je mangeais chez nous.
C'est ça, mais de ce que j'ai su un peu, mais de ce que j'ai appris, c'est je pense que. Puis un peu, je pense que c'est des fois l'erreur que les gens font beaucoup. Puis même si c'est ce que j'avais fait au début, c'est que comme, tu sais, tu changes de mode de vie ou de style de vie ou d'alimentation, puis tu essaies d'y aller en ligne, tu cherches tout le temps la perfection. Puis moi au début, c'est ça que je cherchais, j'étais comme, à chaque repas que je vais le faire, ça va être la meilleure salade possible avec le plus de nutriments possible.
Ouais.
Mais ça reste que tu t'entraînes pour un sport d'endurance, puis même d'ultra-endurance. Puis des fois, tu t'entraînes 3-4 heures, des fois 6 heures. Fait que tu as besoin de manger des choses qui ne sont pas considérées 100%. Tu as besoin de manger du pain, tu as besoin de manger du riz.
Ouais.
Tu as besoin de manger des biscuits également.
Ouais, exact.
Si tu cherches 100% la perfection, tu risques de manquer d'énergie. Puis les glucides, tout ça, c'est ça qui est ton fuel. Puis des fois, je pensais un peu ça, l'erreur de ce que j'ai appris un peu, c'est que justement, il essayait d'être 100% parfait, il s'entraîne tellement fort qu'à la fin, il dit, mais je manque d'énergie, mais...
Faut que tu manges une pizza, des fois.
Fais ton Excel spreadsheet, puis check la différence de calories.
Qu'est-ce qui sort, ouais, exact. Ouais. Puis manger une alimentation, mettons, plant-based de 100% optimale versus dépenser 4000 calories minimum par jour... Tu vas falloir que tu en manges en tabarnak de la salade pour être genre aller chercher ça. Là.
Ouais, c'est 4000 calories de luzerne.
Tandis que genre une pizza, tu peux l'avoir straight up en une seule pizza, là, tu sais.
Exact, ouais. Puis tu sais, faut pas se culpabiliser de, tu sais, comme, c'est correct de manger des fois de la junk, tu sais, de manger un sac de chips. Tu sais, des fois, quand je fais un 6 heures de vélo, il fait chaud. Ce que je crave, quand j'arrête d'un dépanneur, c'est un petit sac de chips au vinaigre.
Ben oui, exact, et c'est ça, exact.
Puis c'est important justement de montrer ça également, tu sais, puis aussi justement des fois avec les réseaux sociaux aussi, c'est facile de montrer tout ce que je mange, c'est parfait, ou tout ce que je fais dans mon entraînement,
voici
c'est
ma
parfait.
Belle assiette de salade de tempeh comme dîner, tu sais, je comprends bien.
Mais on the side, tu manges plein d'autres choses.
C'est
ça, on the side, tu manges,
c'est bourré, là.
Faut absolument que je mange juste la luzerne, genre.
Ouais, je comprends. Mais ça, c'est bon. Puis c'est une autre affaire que j'ai vraiment appréciée de la culture du trail. C'est que, mettons, c'est tellement des longues sorties que tu sors, puis là, à la minute, t'arrives dans une pâtisserie, man, puis là, tu pognes un muffin, puis tu manges les calories que t'as à portée de main, tu sais. Puis il n'y a pas de culpabilité. Il n'y a personne qui fait genre, mais là, il faut que je perde temps pour être gros de même sur mon vélo. Puis le monde, c'est juste, non, man, ça prend juste d'énergie.
Ouais, c'est genre, ça un peu la différence, justement, avec le marathon. Le marathon, c'est vraiment un sport de chiffres. Ouais. C'est ton pace, mais également, c'est ta nutrition.
C'est ton
mais quel poids
c'est...
tu peux être. Puis je pense, justement, ça peut vraiment affecter de façon négative ta performance d'essayer de trop avoir un poids léger. Puis je pense, dans le temps, personnellement, également, des fois, j'avais un peu la pression de perdre du poids, soit ouais. avec des commentaires genre de coach, des choses de même, comme genre, check ton poids, peut-être faudrait que tu perdes du poids, puis quand ça rentre dans ta tête, mais t'es comme, tu te pèses tout le temps,
ouais.
t'essaies de manger le moins possible
ouais.
en disant que c'est ça que ça prend. Puis là, quand t'es lean, puis là, ton coach, il dit, hey, t'as l'air vraiment lean, mais dans le fond, tes performances sont pas bonnes.
Sont moins bonnes, c'est
t'étais
ça.
5 livres de plus, t'as peut-être l'air moins fit, mais tu cours 100 fois plus vite
ouais,
ou
exact.
T'es bien plus résistant, tu sais,
ouais.
à ça, à une épreuve d'ultra-endurance. Fait que de justement écouter son corps puis savoir c'est quoi ton perfect race weight.
Ouais.
Puis c'est pas le race weight que quelqu'un va te dire. C'est vraiment personnellement, c'est quoi que toi qui va te permettre d'avoir l'énergie pour faire une longue épreuve comme ça. Puis aussi d'être résilient dans le training parce que enchaîner des semaines de 20-30 heures, mm-hmm. des fois plus que ça, si t'es 100% comme à ton genre 6% de gras, 4% ouais. de gras, c'est comme tu vas péter aux frettes dans ouais. pas long. Là. Peut-être c'est correct le jour de la course, mais à long terme, ton système immunitaire, il y a de la difficulté. T'sais. Fait que des fois, justement, de écouter son corps vraiment si t'as besoin de manger, de bien manger. Puis moi, je me pèse pratiquement pas parce que justement, t'sais, les triathlètes, justement, mais en tout cas, personnellement, j'ai tendance à être comme obsessif dans tout ce que je fais, tu sais.
Ouais.
Fait que quand je me pesais, c'est comme c'est un chiffre que c'est comme ça, ouais. c'est un chiffre puis tu dors la nuit puis tu penses à ça, tu fais ton vélo, tu penses à ça, tu manges, tu penses à ça. Fait que je me fuel ce que j'ai besoin de faire.
Ouais.
Je mange, je me sens bien, puis il y a aucune restriction, puis je pense que c'est ça qui marche le plus là.
Ouais, ben je suis d'accord avec toi. Je sais que tu avais partagé un article qui disait qui parlait à tout le monde qui disait que Christian Blumenfeld il avait pas la shape d'un triathlète. Ben tu dis ben si le meilleur au monde a pas la shape d'un triathlète, je me demande c'est quoi la shape d'un triathlète.
Exactement, ouais.
Si le meilleur triathlète au monde il a pas la shape d'un triathlète, je sais pas trop c'est quoi là.
Ouais, ça m'a vraiment frappé. C'est genre c'était un quote genre je pense sur Twitter ou Instagram, puis ça m'a vraiment comme dit comme tu peux pas mieux le dire que ça là.
Ouais.
C'est sûr que les gens qui vont voir justement Christian Blumenfeld, il n'y a pas la shape d'un marathonien, ouais. mais c'est ça qui marche pour lui. Puis, il y en a qui disent, oh, si seulement il perdait un 10 livres, il serait bien plus vite. Mais peut-être c'est l'inverse. Peut-être s'il perdait 10 livres, il serait justement en low energy availability, il serait en déficit énergétique. Soit il manquerait de l'énergie durant l'effort ou son entraînement ne serait pas bénéfique parce qu'il serait under fuel.
Mm-hmm.
Je pense qu'il y a dans la littérature en ce moment, là, dans les derniers comme 5 ans ou environ. Parce qu'avant, on parlait tout le temps de le triad pyramide, tu sais, chez les femmes, que c'est un manque d'énergie qui va avoir plein d'impact sur ta santé et sur ta performance. Mais là, on réalise que c'est vraiment autant chez les gars que chez les filles. Puis justement, ils appellent ça maintenant le low energy availability, c'est que tu te underfuel constamment. Puis des fois, ça va pas paraître réellement dans ton poids. Tu vas pas être underweight, tu vas être un poids standard, mais ça reste que à chaque entraînement que tu fais ou à chaque semaine d'entraînement, tu es tout le temps un peu under fuel. Ton corps, il essaie de combattre ça pour essayer de rester au même poids, mais ça reste que tu manques tout le temps d'énergie pour performer, puis ça fait qu'à long terme, ta performance, puis c'est là que justement, tu sais, tous les problèmes de overtraining, ça va arriver. C'est beaucoup plus facile d'être malade également. T'sais, le risque de blessure augmente beaucoup. Fait que, ouais, je pense que c'est quelque chose de... Puis aussi, je pense que de plus en plus, il y a beaucoup de choses comme, mettons, le intermittent fasting, qui est quelque chose d'intéressant, t'sais, d'un point de vue scientifique. Tu lis la littérature, il y a plein de bénéfices. Mais ça reste que, t'es un athlète qui s'entraîne 30-35 heures ou 20-25, pense-y, là, est-ce que tu as vraiment besoin de ne pas manger le matin jusqu'à 2 heures? Puis je pense que ça devient tellement comme... Ça devient quasiment une compétition avec genre du monde comme qui vont parler dans les podcasts. Là. Hey, moi, j'ai fait 18 heures d'intermittent fasting. Ouais, c'est comme... Moi, ça fait 3 mois, je pense pas. Ils vont tout le temps essayer de stopper. Puis ça devient exagéré. Puis les gens, ils écoutent ça. Puis souvent, c'est pas des experts qui parlent de ça. Là. C'est des Joe Rogan, du monde exact, de même. Que... Je trouve ça intéressant ce qu'il dit, son podcast, tout ça, mais ça reste que faut pas nécessairement prendre
ce qu'il dit pour le cash, là.
Soit les podcasteurs ou les influenceurs sur Internet vont dire, parce que ça, ils ont sûrement juste lu un titre sur un article, ils ont pas lu l'article au complet, puis ils comprennent peut-être pas justement toute la complexité de ce que ça peut faire à long terme, de tout le temps pas assez t'alimenter, là.
Ouais. avant de finir, juste le gars qui est arrivé quatrième au championnat du monde, le Canadien là, qui est arrivé quatrième au championnat du monde au marathon. J'oublie son nom, là. Ça vient...
Cam Lewis? Non, Cameron Levine.
Peut-être, je sais, je pourrais pas te dire, mais j'ai juste lu son entrevue post-course parce que la journaliste lui demandait qu'est-ce qui s'était passé à Tokyo, tu sais, pour qu'il sous-performe à Tokyo, puis qu'il arrive là, puis qu'il finalement, tu sais, il a le calibre d'être quatrième au monde, là, tu sais. Mais évidemment, il y avait l'aspect que c'était pas tout le monde qui était là, mais.
Mais son temps en tant que tel était vraiment.
Son temps en tant que tel était vraiment, vraiment bon, puis lui, il a dit c'est juste que cette année, j'ai mangé à ma faim.
Mm.
C'est ça le seul changement que j'ai fait dans mon entraînement. Wow. C'est quand même considérable. Ouais. Hein? Puis venant d'un milieu, la course à pied, puis on le voit de plus en plus, puis les histoires sortent là, de à quel point ça peut être toxique comme milieu pour justement la question du poids. Là.
Ouais.
Où est-ce qu'il y a du monde qui développe des gros problèmes alimentaires sur le long terme parce qu'ils se font mettre dans la gorge qu'il faut qu'ils soient le plus fit possible. Puis lui, il disait « j'ai juste mangé à ma faim cette année ».
C'est comme lui, tu sais, pendant un bout, il s'est entraîné avec Alberto Salazar.
Mm-hmm.
Tu sais, que lui, c'est un coach, il a été banni pour doping.
Exact. C'était le gars
de Nike, Oregon Project, tu sais.
C'est ça.
Le coach a été banni pour doping, mais beaucoup d'athlètes qui ont été coachés par lui, ils ont jamais été bannis pour doping, là. Mais ça reste que, puis lui...
Mais lui, il a créé ce problème-là avec plein de monde, là.
Oui, comme Karaguchi, c'est un très bon exemple. Puis il donnait comme un produit qui faisait perdre du poids. Puis il y avait Mary Kane qui est un très bon exemple. Puis, elle a tout parlé un peu de la culture toxique.
Elle qui avait fait
Nike,
un article, là, son op-ed, c'était genre j'étais la meilleure coureuse au monde avant d'avoir join l'équipe
Nike. Exact, ouais. Puis c'est ça, lui, il disait tout le temps faut que tu perdes du poids pour mieux performer. Puis il était comme mais je performe au meilleur, j'ai jamais performé.
Mm-hmm.
Puis tu me dis de perdre du poids. Puis c'est là que toute sa carrière a dégringolé juste à cause de ça. Puis c'est juste quelqu'un qui est dans son...
Une vieille mentalité de marde, là.
Vieille mentalité, puis aussi, tu sais, il regarde son spreadsheet, puis il compare à peut-être d'autres personnes, il est comme, « Oh, mais elle est peut-être 2-3 livres de plus que l'autre. Faut juste qu'elle perde ce 2-3 livres-là, elle va être 2-3% de mieux. Mm-hmm. » Tu sais, c'est des choses comme ça. Puis en vélo, également, c'est un sport de chiffres. Également, c'est tout le temps watts par kilogramme.
Ouais.
Fait que t'es comme, « Oh, mais si il perd 5 livres, mais son watts par kilogramme augmente, mais son wattage également risque de diminuer également. »
Exact. Ouais. Hey, où est-ce que les gens te suivent?
Vous pouvez me suivre sur Instagram, Antoine JD Tri. Sur Facebook également, Antoine JD Tri. Twitter aussi également, Antoine JD Tri. Puis, je suis plus actif sur Instagram, je pense.
Puis, dans le fond, je vais m'assurer de sortir ce podcast-là avant Tremblant. Comme ça, il sera pas trop hâte d'été là, d'un coup que tu es arrivé à Tremblant. Puis que
pas de pression si je finis. Genre.
Non, mais dans le sens où, tu sais. Comme ça, le podcast sortira pas une fois que t'as déjà performé. Là, fait que le monde pourront te suivre à Tremblant. L'application, j'imagine, ça va être super simple. Y a-tu un broadcast?
Je sais pas s'il l'a cette année, mais s'il l'a, c'est sur le Facebook d'Ironman. C'est Ironman Now. Puis souvent, ils font quand même un très beau coverage.
C'est beau d'habitude.
C'est quand même
mais
cool
je sais qu'il
n'y
en avait pas au 70.3. Là,
mais souvent, c'est plus pour les Ironman qui vont l'avoir. Ouais.
Okay. Mais on te suit là, puis bonne chance, bon succès. Puis sinon, ben en tout cas, on va peut-être se croiser au départ du 125, si jamais tu décides de le faire, du Arikana.
Ça va être
si
un bon challenge aussi.
All right, merci, man.
Good, merci beaucoup pour l'invitation.